écoutez France Inter, il est 18h. Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et les amis, à demain. Pour nous c'est parti, le 18-20 de France Inter est ouvert, installez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord comme chaque soir ce que vous devez retenir de cette journée du mercredi 4 mai avec le journal de Corinne Audouin. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel, Corinne, commence ce soir par une bonne nouvelle pour ceux qui désespèrent d'obtenir un passeport ou une carte d'identité.
2 mois d'attente en moyenne pour avoir un rendez-vous, jusqu'à 4 mois dans certains départements. Face à l'embouteillage, le gouvernement dégaine un plan d'urgence. Retour à la normale espérée d'ici cet été. Le feuilleton de l'Union de la gauche suite. Le PS annonce avoir trouvé un accord avec la France insoumise, mais ça grogne dans les rangs des socialistes. Pas sûr que l'accord soit validé par le Conseil national demain. Explication dans ce journal. Dans l'actualité ce soir également, une situation confuse à Marioupol. Le port ukrainien bombardé sans relâche depuis 2 mois. Les Russes ont peut-être lancé l'assaut final. Les nationalistes du Sinn Féin en passent de l'emporter aux élections locales en Irlande du Nord demain. Et puis il a profité d'une visite au zoo pour s'échapper. On vous raconte l'évasion d'un détenu hier dans la Drôme.
À 18h15, un jour dans le monde, le Premier ministre indien Narendra Modi est en France. Premier chef de gouvernement d'ailleurs à rencontrer Macron 2. L'enjeu est important, les Européens cherchent à convaincre l'Inde de lâcher Moscou, de renforcer leur lien avec l'Europe. C'est ce qu'on va vous expliquer dans un tout petit instant. À 19h20, c'est le téléphone sonne bien sûr avec cet accord au PS. Quoi d'autre qui doit passer maintenant devant le bureau et le Conseil national du PS? On va se demander si ce sera une partie de plaisir. Vous nous donnerez votre avis de vieux militants, de sympathisants. Vous nous direz dans quel état vous êtes. Est-ce que vous êtes dans le camp de ceux qui disent « sans moi » ou dans le camp de ceux qui disent « et sinon quoi ?» À vous de jouer en tout cas et à vos téléphones au 01 45 24 7000.
France Inter.
Le gouvernement lance donc un plan d'urgence pour accélérer la délivrance des papiers d'identité.
Oui, vous le savez, si vous avez tenté ces derniers temps de renouveler votre carte d'identité ou de faire un passeport pour les vacances, les mairies sont totalement débordées avec jusqu'à 4 mois d'attente par endroit, simplement pour avoir un rendez-vous au lieu d'un mois habituellement, de quoi compromettre certains départs à l'étranger cet été. Un embouteillage dû notamment à la fin de la crise sanitaire. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Le gouvernement promet de nouveaux créneaux de rendez-vous et un retour à des délais normaux d'ici cet été.
Oui, car ce n'était pas forcément un manque de personnel pour faire face à cet afflux de demandes de rendez-vous, au rattrapage lié aux 2 années Covid, au fait que de nombreux pays ont ouvert enfin à nouveau leurs portes pour l'été prochain. C'est avant tout parce que les communes les plus touchées manquaient de ces petites stations numériques, essentielles pour constituer les dossiers passeport ou cartes d'identité. Pascal Sauvage est la directrice adjointe de l'Agence nationale des titres sécurisés.
Là, on agit en déployant dans un délai très court 400 dispositifs de recueil. Ce sont les installations en mairie qui permettent d'opérer la demande des titres, de scanner les pièces justificatives, de recueillir les empreintes. Ce sont des petites machines qui ressemblent à des stations avec des scanners.
Mais pour démultiplier les créneaux de rendez-vous en mairie, l'autre solution d'urgence est facilement faisable, et pour toutes les communes cette fois, c'est de pré-remplir les demandes en ligne.
Lorsque vous effectuez votre pré-demande en ligne, ensuite on gagne un temps considérable pendant le rendez-vous en mairie, ce qui permet de gérer davantage de rendez-vous.
Le gain de temps, hein, c'est ça, c'est du simple au double?
Oui, quasiment.
Et pour les pré-demandes en ligne pour faire ou refaire un passeport ou carte d'identité, c'est sur le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés, la NTS, qui pense donc, Corinne, que la situation devrait revenir quasiment à la normale au début du mois de juillet, avant les grands départs en vacances.
Merci Emmanuel Leclerc pour toutes ces précisions. L'accord est conclu, mais tout reste à faire. Le Parti socialiste et la France insoumise ont finalement trouvé un terrain d'entente après des heures de négociations. Ils l'ont annoncé ce matin. Les socialistes sont donc sur le point de rejoindre la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. C'est le nom de cette alliance avec les Insoumis, les Verts et les Communistes, formée en vue des élections législatives. Bonsoir Anne Souhaitement.
Bonsoir.
Du service politique de France Inter. Alors, accouchement dans la douleur pour cet accord qui porte à la fois sur la stratégie, le programme et les circonscriptions.
Oui Corinne, cet accord il permet d'abord au Parti Socialiste de présenter 70 candidats. Information importante, tous les députés socialistes sortants sont réinvestis, tous, sauf une, Sylvie Tolmont. Elle est proche de Stéphane Le Foll qui crie depuis des jours, vous le savez, son hostilité à tout accord avec les Insoumis. Un accord sur le nombre de circonscriptions, donc, mais aussi sur le programme. À en croire le document mis en ligne, certains points n'ont posé absolument aucun problème. SMIC à 1 400 € net, blocage des prix de première nécessité, abrogation de la loi El Khomri. Les discussions ont été beaucoup plus compliquées sur la fameuse question européenne. Alors que les accords signés par Europe Écologie Les Verts ou le Parti communiste reprenaient la notion chère aux Insoumis de désobéissance aux règles de Bruxelles, le texte paraphé par les socialistes botte lui en touche, parle simplement d'objectifs communs, une manière de sauver l'accord tout en actant des désaccords profonds.
Alors voilà pour l'accord, mais n'allons pas trop vite. Le texte doit encore être approuvé demain soir par le Conseil national du Parti socialiste. Et c'est pas vraiment garanti, Anne.
Et non, le vote de demain s'annonce très délicat. Plusieurs figures historiques du Parti socialiste font savoir leur colère depuis quelques heures. Ici se termine notre aventure commune, a tweeté Claude Bartolone, ancien président de l'Assemblée. Sur le même réseau social, l'ancien patron des socialistes, Jean-Christophe Cambadélis, évoque une reddition et appelle à la rébellion. Plus mesuré, François Hollande dit dans La Montagne qu'il récuse l'accord mais fait confiance aux instances. Alors, leur ligne peut-elle l'emporter demain soir ? Possible, estiment plusieurs sources. Une menace qui agace les partisans des négociations. En privé, un ancien député s'énerve. Si on n'avait pas aussi bien négocié, on serait à 32 circonscriptions. Que veulent les opposants à l'accord ? Qu'on en ait 8. Le Conseil national de demain s'annonce mouvementé.
Merci Anne Souhaitement. Évidemment, on suit la suite du feuilleton demain sur France Inter. Et toujours pas de nouveau gouvernement en vue. Jean Castex ira au bout du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, lequel se termine officiellement le 13 mai à minuit, vendredi dans 8 jours. Donc, aucune proposition n'a été faite à qui que ce soit, précise le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, pour couper court à toutes les rumeurs autour du nom du futur Premier ministre.
Et direction l'Ukraine, Corinne, Mariupol presque entièrement détruite, les combats s'intensifient encore.
Assiégée sous les bombes depuis plus de 2 mois, la ville portuaire située dans le sud-est de l'Ukraine est pratiquement tombée aux mains des Russes, à l'exception du site de l'usine métallurgique d'Azovstal. Et cet après-midi, le maire de Mariupol affirme que les Russes ont lancé un assaut très violent. Les explications de Valérie Krova.
L'armée russe serait-elle en train de lancer l'assaut final sur Azovstal? Même si le Kremlin prétend l'inverse, le maire de Mariupol, qui a quitté la ville, affirme que des chars, des avions ainsi que des navires sont à l'œuvre pour bombarder l'usine dont le site se trouve le long de la mer d'Azov. Nos gars sont courageux et défendent la forteresse, mais c'est vraiment difficile, a reconnu le maire à la télévision ukrainienne. Les soldats du régiment Azov, qui avaient l'habitude de communiquer avec l'extérieur par des messages vidéo, ne donnent plus signe de vie. Mais le complexe dispose de plusieurs niveaux souterrains jusqu'à 40 mètres de profondeur où les combattants pourraient s'être mis à l'abri. Des irréductibles qui ne veulent pas se rendre et iront jusqu'au bout pour défendre ce qui fut l'une des plus grandes usines métallurgiques d'Europe. Des civils seraient par ailleurs toujours bloqués sur place, des centaines selon le maire de Mariupol, dont plus de 30 enfants qui n'ont toujours pas été évacués.
Et pour la première fois, le front européen, uni jusqu'à présent dans les sanctions contre la Russie, semble se fissurer. La Hongrie rejette la proposition de la Commission européenne d'interdire progressivement l'achat de pétrole russe. Comme la Slovaquie, la Hongrie est enclavée, totalement dépendante des livraisons par l'oléoduc depuis la Russie. Bruxelles a prévu de leur accorder un délai 1 an et demi, insuffisant pour la Hongrie, et la proposition doit être adoptée à l'unanimité. Dans ce 6e train de sanctions, Bruxelles préconise également de sanctionner le chef de l'église orthodoxe russe, le patriarche Kirill, l'un des plus fervents défenseurs de Vladimir Poutine. Vers une possible victoire du Sinn Féin en Irlande du Nord, les nationalistes sont donnés largement favoris des élections locales qui se tiennent demain. L'Irlande du Nord renouvelle son parlement, d'où est issu son gouvernement, actuellement dirigé par un unioniste. Et ce serait un véritable séisme politique, ancienne vitrine politique de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Le Sinn Féin s'est profondément renouvelé, mais il prône toujours la sortie de l'Irlande du Nord du Royaume-Uni. À Belfast, le reportage de Richard Place.
Michelle O'Neill se verrait bien première ministre. Contrairement à ses prédécesseurs, la leader du Sinn Féin n'a aucun lien avec l'IRA, l'armée républicaine irlandaise qui posait des bombes et tuait il y a 40 ans. Un seul combat alors, la sortie du Royaume-Uni. Le parti tourne cette page et son programme parle avant tout du pouvoir d'achat. Le mouvement a aussi su évoluer, s'éloigner de ses racines catholiques quand il a voté pour autoriser l'avortement. Le Sinn Féin a changé, dit Brenda Hughes, journaliste politique à Belfast Live.
Le Sinn Féin tire la majorité de son soutien des moins de 35 ans, selon les sondages sur les intentions de vote, ce qui les rend d'autant plus confiants pour la suite. On pourrait donc voir le Sinn Féin accroître son score lors d'élections futures.
Le parti nationaliste bénéficie également des mauvais choix de son principal rival unioniste. Le DUP, au pouvoir jusqu'ici, avait fait confiance à Boris Johnson pour négocier la sortie de l'Europe. L'Irlande du Nord se retrouve avec un protocole inapplicable et des négociations interminables. Du pain béni pour le Sinn Féin, qui dégaine une solution simple, celle qu'il prône depuis toujours, quitter le Royaume-Uni et réunifier les deux Irlandes au sein de l'Union européenne. Belfast, Richard Place, France Inter.
L'OMS prend position pour défendre le droit à l'avortement, alors qu'aux États-Unis, la Cour suprême pourrait le remettre en cause. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé rappelle que l'accès à des avortements sûrs sauve des vies. Les avortements clandestins provoquent la mort de 39 000 femmes chaque année dans le monde. Le docteur Tedros rappelle que l'interdiction de l'avortement ne réduit jamais le nombre, mais oblige les femmes à recourir à des procédés dangereux.
À Valence, Corinne, un détenu s'est fait la belle pendant une sortie au zoo.
Oui, il a demandé à aller aux toilettes et il n'est pas revenu. Les recherches pour le retrouver sont pour l'instant restées vaines. C'était sa première permission depuis 5 ans. Or, l'homme n'en est pas à sa première évasion. Les explications de Théo Metton-Regimbaud de France Bleu Dourmardèche.
L'homme était incarcéré à Valence depuis mai dernier, mais en prison depuis 2005. Il avait fini de purger 15 ans de réclusion criminelle pour viol. Il lui restait 3 ans à effectuer pour des affaires de vol et de drogue. C'est un détenu qui s'était déjà évadé une première fois en 2017. Alors l'affaire agace le délégué syndical UFAP de la prison de Valence. Pour Sylvain Royer, ces sorties de groupe sont un trop gros risque.
On a eu une évasion sortie parapente. Après, on avait eu une évasion effectivement sortie vélo. Des permissions de sortie comme ça pour aller voir des animaux. Bon, je pense qu'on peut s'en passer, hein, suivant les profils qu'on peut avoir dans les établissements, notamment au centre pénitentiaire de Valence, avec un quartier maison centrale avec... des détenus souvent dangereux.
Mais ce prisonnier semblait dans une démarche positive, prêt à se former, à travailler, à indemniser ses victimes. C'est pour ça que le juge d'application des peines avait autorisé pour la première fois sa participation à une sortie. La visite du zoo en petit groupe, 4 détenus, 4 surveillants.
Théo Metton, Regimbaud de France Bleu de Romardèche. 8 mois de prison ferme pour l'homme qui avait agressé 2 sapeurs-pompiers à Nîmes dimanche dernier en marge du défilé du 1er mai. Et à Paris, le procès de la femme jugée pour avoir frappé elle aussi un pompier le 1er mai est renvoyé à sa demande le temps de préparer sa défense. Le parquet requiert son placement en détention provisoire en attendant son procès. Et il faut espérer que cela ne décourage pas les vocations car les pompiers recrutent. Un appel aux pompiers volontaires est lancé dans toute la France. Si vous avez 18 ans et plus, vous êtes bienvenus, car sans les volontaires, impossible de faire tourner les casernes. Dans la Vienne, ils sont 1300, aux côtés de 200 pompiers professionnels. La plupart ont un travail et donnent quelques heures de leur temps. Aujourd'hui, ils incitent les citoyens à les rejoindre. Écoutez ce reportage de Théo Bauchet à la caserne des Trois Moutiers. C'est une commune rurale de la Vienne.
Devant la caserne rectangulaire au bord de la route, Charlotte déroule une grande bannière qui dit « Pourquoi pas vous ?»
On va l'afficher de façon bien visible pour que tout le monde puisse la voir en passant.
Cette infirmière est engagée depuis 10 ans.
Je donne beaucoup, après chacun donne en fonction de ses disponibilités. Je pense qu'on fait pas ça si on n'aime pas l'humain en fait.
Ils sont 25 dans cette caserne qui existe depuis les années 70, avec 8 femmes désormais. Elle va donc s'agrandir pour leur donner plus de place, surtout dans la salle des casiers. Suzon est arrivée il y a 4 mois.
Et du coup, chaque fois, on prend un casier, on essaie de faire de la place, on pousse les casiers des garçons pour que justement les filles prennent un peu possession des lieux.
Plus de 300 interventions par an, surtout du secours à la personne. Et pour Vincent, 15 ans d'engagement, on a tous du temps à donner.
En fait, on a tous un petit peu de temps. C'est un corps qui a besoin de personnes différentes, de tout corps de métier. En fait, c'est ce qui fait la force, c'est qu'il n'y a personne d'identique. Et ça, ça rend plus fort.
Il faut quand même être un peu sportif, mais ça peut ouvrir de belles carrières. Un des jeunes volontaires de la caserne a été sélectionné pour intégrer les sapeurs pompiers de Paris.
Théo Bauchet de France Bleu Poitou. Allez Fabienne, je suis sûre que vous feriez un pompier formidable.
Mais absolument. Tiens, qu'est-ce que vous croyez? Je porte très bien l'uniforme. Corinne Audouin, merci beaucoup. À tout de suite. Dans Un jour dans le monde, vous défilerez, tiens, en tartan écossais tout à l'heure. Pas n'importe quel tartan. Ce soir, nous allons essayer de comprendre ensemble pourquoi la visite en France et en Europe du Premier ministre indien est capitale et de quoi on discute surtout avec lui. Et puis à 19h20, c'est le téléphone sonne. On reste un peu monomaniaque, hein, cette semaine, un peu monothématique. C'est le PS qui nous intéresse, qui a donc signé un accord avec les Insoumis. On verra ensemble combien cet accord souligne les lignes de fracture dans un parti qui, et vous nous donnerez votre avis là-dessus, vous poserez des questions, qui fait son deuil de ce qu'il a été en acceptant un accord ou en claquant la porte. Tout ça, bien sûr, ouvre notre discussion au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel avant de démarrer.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et Sébastien Léas, bonsoir. Du soleil à l'ouest et de la pluie sur l'est, voilà pour demain.
Oui, bonsoir Fabienne. La journée sera plutôt bien ensoleillée demain entre les Hauts-de-France, les côtes de la Manche et le bassin aquitain. Les belles éclaircies seront quand même parfois retardées par des grisailles matinales, notamment au nord de la Loire. Plus à l'est, les nuages seront plus nombreux. Le soleil arrivera à faire de belles apparitions, notamment le matin entre les Ardennes et l'Auvergne. En revanche, il faudra aussi composer avec des averses entre les Pyrénées, le Vaucluse et la Lorraine. Ces averses seront quand même moins actives qu'aujourd'hui, mais quelques coups de tonnerre sont quand même possibles l'après-midi. D'ailleurs, les orages qui éclatent en ce moment sur la moitié est vont se prolonger jusqu'en première partie de nuit. Et puis sur la façade est, la journée de demain s'annonce grise et pluvieuse. Les averses seront régulières entre l'Alsace, les Alpes et la Côte d'Azur, surtout le matin. Mais c'est en Corse que les pluies seront les plus actives, en particulier l'après-midi.
Et avec des températures en baisse aussi, Sébastien, surtout à l'est d'ailleurs.
Oui, avant de repartir à la hausse dès vendredi, une hausse qui va d'ailleurs nous amener vers une période quasi estivale sur l'ensemble du pays pour la semaine prochaine. Les températures vont perdre quelques degrés demain sous les averses et la pluie. Exemple à Mulhouse où il fera 14 degrés demain après-midi alors que le mercure a atteint plus de 22 degrés aujourd'hui. L'après-midi, il fera 17 degrés à Tarbes, Besançon et Clermont-Ferrand, 18 degrés à Nancy, Lyon et Bastia, 19 degrés pour Lille, Tours et Limoges. On ira jusqu'à 20 degrés à Paris, Rennes, Reims et Toulouse, 22 degrés à Bordeaux et à Montpellier et 23 degrés pour Marseille.
Sébastien Léas de Météo France. Merci beaucoup Sébastien. À tout à l'heure après 19h.